Mon papa est l'aîné d'une fratrie de 10 garçons. Et ça s'est pas arrêté là, mon grand-père. Encore 3 filles. Donc 13. Et 80% à peu près, hein, 80% de ma famille sont au Seigneur. Et cet oncle, donc, qui est parti, il a toujours résisté à l'appel du Seigneur. Et c'était un peu mon souci quand on m'a dit qu'il allait pas très bien. Donc, on a prié déjà mardi, ici, à la réunion de prière. Et puis, j'ai été le voir mercredi. Et mercredi, dans cette chambre, première des choses que je lui ai dit, je l'ai salué. J'ai dit, alors, comment ça va? Il me dit, j'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Extraordinaire. Alors, du coup, parce qu'on ne sait pas trop au départ, hein, quand on a continué de parler, ça a changé en fait. On a parlé des choses essentielles. Et puis il m'a dit, tu sais, si le Seigneur a prévu de me reprendre, je sais où je vais. C'est extraordinaire. Hein. Alors il y avait dans cette chambre une présence de Dieu même qui était palpable. Alors on a prié, voilà. Mais il y a quand même ce déchirement qui est là. C'est moi qui ai eu la charge d'apporter la parole. Et vous savez, déjà apporter la parole quand c'est la famille, hein, donc voilà, c'était quand même pas si évident que ça. Il y avait du monde, et pour couronner le tout, hier, il a plu des cordes. Alors faire un enterrement avec la pluie, forte pluie, donc à un moment donné, je pouvais pas, j'avais le parapluie, tout ça. Bon, on a laissé le parapluie. Puis bon, je vous dis pas dans quel état on a terminé de partager la parole, mais en tout cas, une chose est certaine. C'est que, par exemple, il y avait les personnes là des pompes funèbres qui sont venues me voir. Ils m'ont donné une carte pour me dire, si je vous sollicite une prochaine fois, est-ce que vous seriez d'accord pour venir apporter la parole? Mais gloire à Dieu. J'ai dit, donnez-moi la carte, ne vous inquiétez pas. Si on est disponible, c'est pas trop loin. On vient parce que c'est à ce moment-là qu'on réfléchit finalement au sens, au vrai sens de la vie, en fait. Quel est le sens de la vie, hein? Et donc, voilà, on s'est quitté. Donc il y avait des sentiments doubles, donc le déchirement, mais quand même une joie de savoir que mon oncle a terminé la course en vainqueur. Et comme dit la parole, désormais la couronne de vie lui est réservée, et ça c'est une espérance dans nos cœurs. Alléluia. Donc je voulais vous remercier par rapport à cela. Alléluia, amen. On va rentrer sans plus tarder, maintenant on va partager ensemble la parole de Dieu avec cette pensée qui finalement n'est pas sans émotion, parce qu'on va parler de quelque chose de tellement important, la puissance de la croix. Parce qu'à la croix, il y a une puissance. Alléluia, amen. Il y a tout un symbole dans toutes les religions dans ce monde. Il y a, chaque religion a un symbole. Par exemple, j'ai pris les plus essentiels, vous voyez, le christianisme, donc l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et le judaïsme. Donc, et quand on voit le symbole, on comprend déjà tout ce qui va derrière. Et pour nous, le signe distinctif des chrétiens de tous les pays, c'est la croix. Mais j'aimerais ce matin vous parler de la puissance de la croix afin qu'elle ne devienne pas seulement un pendentif autour du cou, une protection contre je ne sais quoi, hein, mais que vraiment la croix, on en ressorte tout à l'heure avec une meilleure compréhension de tout ce qui s'est passé quand Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire. Tout d'abord, vous dire en introduction que la croix, c'est une puissance. Amen. Merci, Béatrice, pour ton amen. Parce que nous aurions tous pu dire et dû dire. Amen. Parce que c'est une puissance. La croix, et on le voit au travers de ce verset de 1 Corinthiens 1, 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mais, car la prédication de la croix, c'est une folie. Alors, quand ça commence comme ça, on dit, bon, on a besoin d'explications. C'est une folie. Mais pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Moi, je suis toujours impressionné que depuis des siècles, le message reste le même. Et encore et toujours, des personnes se tournent vers le Seigneur par la prédication de la croix. Alors pour certains, c'est de la folie. Et certains, donc, se moquent, sont, voilà, dans cette moquerie, hein, en disant que ces choses-là, elles sont futiles, que c'est pour les faibles. Mais nous, nous avons compris que c'est une puissance à tel point qu'elle nous a libérés, elle nous a rendus libres du pouvoir qu'avait le péché sur nos vies. Alléluia. Amen. Oui, l'apôtre Paul, il dit, donc, la prédication, c'est-à-dire l'annonce, la proclamation de ce message, c'est une folie pour certains, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Quand on parle de la croix, on a vraiment besoin. Voilà, pour tous ceux et celles qui ont donc le pendentif autour du cou, hein, on juge personne ce matin, évidemment. Mais finalement, qu'est-ce que la croix ? La croix, c'était un instrument de torture et de mort réservé aux criminels et aux esclaves. Et c'est comme ça. Donc, que certaines personnes mouraient et c'était quelque chose de terrible. L'histoire nous rapporte que c'était un mode de supplice qui était bien banal, hélas, à l'époque. Les hommes mouraient, crucifiés. L'histoire nous rapporte encore que Néron fit crucifier plusieurs milliers de chrétiens de tout âge. On le sait, hein, donc les livres d'histoire même le rapportent. Pour tous ceux qui avaient eu l'occasion d'assister à ce supplice, la croix représentait un objet d'horreur. Vers l'an 320, Constantin a interdit la crucifixion. Et d'ailleurs, on ne crucifiait pas des dames. Le crucifié, pas tellement, il y avait de l'horreur. La crucifixion elle-même, les bourreaux avaient un entraînement spécial. Et là, on se dit que l'homme est ingénieux au mal. Pour essayer de trouver un moyen afin que celui qui était condamné, les criminels, donc puisse mourir, comme dit l'expression, et c'est réellement le cas, petit à petit. Et donc, il y avait cet entraînement spécial, donc voilà, une certaine élite entraînée pour la crucifixion, tellement il y avait de l'horreur afin de pouvoir encaisser tout ce qu'ils pouvaient voir, parce que, on n'en doute pas, c'était assez traumatisant. Et cette élite-là, qui était au nombre de 16, s'appelait les custodias, un nom un peu, voilà, c'est en grec. Et donc, cette élite était préparée pour faire des choses tellement horribles. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que, quelle était la cause de la mort ? La cause de la mort sur la croix, tout d'abord, il y avait des causes indirectes. La flagellation, les hémorragies qui entraînaient le manque d'alimentation, de boisson, et qui entraînait rapidement une déshydratation avec la fatigue, les maux de tête et la soif intense. Rappelez-vous ce que va dire Jésus, hein, j'ai soif. C'était quelque chose de terrible. Donc il y avait des causes indirectes, et donc on flagellait d'abord les personnes afin de pouvoir les fragiliser, donc les affaiblir, afin que petit à petit, voilà, ils puissent rendre l'âme. Et puis, il y avait une autre cause. Et donc, il y avait par rapport à cette cause indirecte, donc cette soif, ces maux de tête, mais également, il y avait une cause indirecte, et là, plutôt directe, pardon. C'était l'asphyxie. Je ne sais pas si on se rend compte. On a tous essayé à un moment donné de jouer à retenir le plus longtemps possible notre souffle. Ou alors, faire un peu de plongée, aller un peu sous l'eau, la sensation, hein, et c'est terrible. Et donc, la cause directe, c'était l'asphyxie, c'était un blocage de la cage thoracique par la position des bras étendus et surélevés. Et ça, il l'avait réfléchi. Hein. un blocage accentué également par le poids du corps tirant sur les bras. La croix, pour le résumer, c'est la souffrance. C'est l'horreur. La Bible nous dit même que c'est la malédiction de la croix, un lieu de malheur terrible. Alors ça, c'est la croix comme instrument de torture. Et puis, il y a eu sa croix. La croix que Jésus a portée. La question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi la crucifixion de Jésus? Quelle était les raisons principales? Tout d'abord, vous dire que c'était pour accomplir le plan éternel de Dieu. Et derrière ça, ça peut paraître fou, un paradoxe complet, on voit l'amour de Dieu. L'amour déversé, prouvé sur cette croix. Donc, la crucifixion, pourquoi? Pour accomplir ce plan divin pour le rachat de l'humanité. C'est par ce biais-là, au travers de cette œuvre magistrale, que nous tous, nous pouvons être rachetés, comme dit la Bible, de la vaine manière de vivre, du péché qui apporte la condamnation. En fait, quand on parle de condamnation, l'ennemi avait un droit légal sur nos vies. À cause de la chute, à cause du péché, de la nature pécheresse de l'homme. Mais à la croix du calvaire, le Seigneur a pris cette déclaration, il l'a déchirée, c'est extraordinaire, afin que nous ne soyons plus sous la condamnation. D'ailleurs, ça va être dit dans l'Épître aux Romains, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Des fois, on oublie la seconde partie, mais c'est tellement important. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, ça va réjouir nos cœurs ce matin, de ne pas vraiment vous encourager à ne pas vivre sous la condamnation, pas vivre sous la culpabilité, parce que le prix a été payé. Le Seigneur nous a rachetés de cette vaine manière de vivre, et désormais, nous sommes libres. C'est pour ça que je me disais ce matin, quand même, alors merci pour ceux qui élèvent la voix, on vous encourage encore à aller plus loin. Mais si on est cohérent avec le rappel de Jésus et de ce qu'il a accompli à la croix du calvaire, on doit pouvoir élever nos voix ensemble. Le louer, vous ne trouvez pas que c'est la moindre des choses? Alors encore une fois, ce n'est pas de la culpabilité comme ça facile, mais juste pour nous remettre en question. Qu'est-ce qui m'empêche de louer Dieu, si ce n'est moi? La liberté nous a été accordée par le Seigneur. Il a pris nos péchés, la condamnation, alléluia. D'ailleurs, le verset central que l'on pourrait réciter pour la plupart par cœur de Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a cette espérance de la vie éternelle? Alléluia. On est à peu près 12. Hop, 13. Alléluia, soyons prompts à déclarer. Parce que si, alors je vous le dis comme ça, si nous sommes déjà dans l'église en disant, je ne sais pas, soyons prompts, montrons à ce monde que nous avons été libérés, que nous ne sommes plus sous la condamnation et que maintenant, désormais, nous sommes de la famille du Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur m'a tellement aimé. Alléluia. Et l'amour a été prouvé donc sur cette croix du calvaire en ce que Jésus s'est donné pour chacun et chacune d'entre nous. Et désormais, nous avons cette espérance de la vie éternelle. Je disais à toute ma famille, mes cousins qui étaient là, où on discutait, je leur disais, vous vous rendez compte? T'es 5-6 cousins là, donc où il y avait le corps. J'ai dit, tous ceux de notre famille qui nous ont devancés, qui sont maintenant dans la gloire, quand ils ont vu arriver mon oncle, oui, parce que la Bible nous le dit, qu'il le voit, cette joie qui est là, alléluia, parce que le Seigneur, il nous libère, Amen. Et dans la perspective de ces moments, on dit, Seigneur, merci pour la vie éternelle. Tout simplement. Et si le Seigneur, écoutez ça, si le Seigneur ne nous bénissait pas jusqu'à son retour, vous savez quoi? Il est quand même digne d'être loué. Mais le Seigneur, dans toute sa grâce, il nous bénit. Est-ce que vous savez que le Seigneur nous prête le souffle de vie? Et avec ce souffle, on va avoir de la difficulté à louer Dieu. C'est une question, hein? Que le Seigneur nous aide à ce que ce moi qui va m'empêcher de vivre des choses extraordinaires, un jour également on pourra partager sur la louange, hein, où j'ai vécu des libérations, parce que oui, le fait de se focaliser sur le Seigneur, de finalement s'occuper que de le louer, dire les bénédictions du Seigneur, sans pouvoir lui apporter, alors que des fois, je traversais des moments difficiles, mais je me préoccupais que d'une seule chose, le louer, et à haute voix. Vous savez pourquoi? Pour que les forces autour, démoniaques, puissent l'entendre, et également moi-même, parce qu'il y a ce combat, hein, chacun d'entre nous, et nous ne voulons pas nous arrêter de déclarer, alléluia, ces choses-là. Oui, le Seigneur m'a donné la vie éternelle. Cette croix, la croix de Jésus, Jésus n'a rien voulu cacher aux disciples. Il l'a annoncé. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. On trouve ce passage dans Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17. Versets 22 et 23. Matthieu 17, 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera et ils furent profondément attristés. C'est sûr. D'ailleurs, personnellement, je n'étais pas là, mais c'est sûr, en imaginant cette scène, que les disciples ont dû se regarder, vous savez, hein, ces fameuses bandes dessinées, avec un gros point d'interrogation au-dessus de leur tête. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et là, Jésus, au travers de ces deux versets, est en train de leur annoncer tout ce qui avait déjà été prévu depuis la création par Dieu de ce plan divin. C'est-à-dire qu'il fallait, il faut, c'est un impératif, afin que l'homme soit libéré, qu'il aille à Jérusalem, que là, il souffre beaucoup, mais ça ne s'arrête pas là, parce que si ça s'arrêtait là, ça serait dramatique. Mais qu'il ressuscite le troisième jour, la mort n'a pu le retenir. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle ce matin? C'est que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est proche de nous. Il s'est approché de nous et par son esprit, on peut le ressentir. Alors la foi, c'est pas de marcher par ce que l'on voit ou ce que l'on ressent. On le croit de tout notre cœur, mais dans sa grâce, le Seigneur, régulièrement, il nous fait ressentir sa présence. Dites-moi, il y a quelque chose de plus beau que la présence de Dieu? Alors que personne ne se prive que nous puissions rentrer dans cette présence. Oui, le Seigneur l'a annoncé. Les disciples étaient complètement dépassés, malgré la précision de ces deux versets. Même la notion de résurrection qui aurait dû les réjouir, apporter de la joie, c'est pas clair pour eux. Ils vont être attristés. Cette croix, il va y avoir tout un processus dans cette fameuse semaine de la crucifixion. Et Jésus va se retrouver au jardin de Gethsémané. Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alléluia, on arrête là la lecture. Ce moment-là, dans ce jardin, on s'aperçoit que c'est une des scènes au sommet de la vie du Seigneur Jésus-Christ et dans les évangiles. C'est cette scène-là qui est extraordinaire. Gethsémané, je ne sais pas si vous êtes au courant, veut dire le lieu du pressoir à huile. Donc ça sous-entend évidemment, hein, monde des oliviers, tout ça, que c'est là où on pressait l'huile. Mais il y a une signification pour nous. C'est que là, à Gethsémané, Jésus a été pressé à cause du péché. Regardez comment Jésus encore, alors qu'il est dans un temps où il supporte, il porte sur lui les péchés de l'humanité, il pense encore aux autres. Petit détail important, il va leur dire, asseyez-vous. D'abord pour qu'ils soient attentifs. Mais également, le fait de s'asseoir, d'avoir une oreille exercée, ce qui prouve que Jésus s'inquiétait pour ses disciples. Et il dit, je vais m'éloigner un peu pour prier. On s'aperçoit de l'importance de la prière. C'est important, hein, la prière. Je sais, par exemple, qu'on n'aura aucune difficulté quand on aura un besoin, quand on aura une douleur quelque part, qu'on ira faire des examens et qu'on va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Et là, on n'aura pas de difficulté à prier. Mais j'aimerais parler de cette prière en communauté. La puissance de la croix, certes, mais la puissance de la prière. Frères et sœurs, chers amis, sans la prière, rien ne peut se faire. Et vous savez que prendre du temps dans la prière, ça va à l'encontre de notre chair qui est là. Vous avez remarqué avec moi que la chair, elle ne nous poussera jamais à aller prier. Et comme nous sommes des êtres rationnels, on a besoin de sentir. Si on se sent bien, on n'a aucune difficulté de venir à la réunion de prière ou de prier. Si on n'est pas bien, on va remettre à plus tard. Et vous allez remarquer que à l'heure de la prière, soit il y a toujours quelque chose à faire, soit il y a une impossibilité. Alors, quand l'impossibilité, elle est là, elle est avérée, que personne ne soit condamné. Hein. Frères et sœurs, ne venez pas à la fin me dire, voilà, moi je peux pas parce que. Je parle à tous ceux et celles qui ont compris que la prière est une puissance, de pouvoir se réunir ensemble. Vous savez, les mardis soirs, quand on prie pour les besoins, pour vos besoins. Peut-être que ça serait bien que vous puissiez venir avec nous prier pour vos besoins, afin de pouvoir intercéder. Hein, à l'heure de la prière, on a toujours quelque chose à faire. Vous savez que dans la vie, il y a des priorités, notamment celle-là. Faisez la réflexion, hein. Et c'est un peu partout dans toutes les églises. Je pense qu'on doit se ressaisir. Quand, au début du siècle, il y a eu ce réveil qui a fait que la parole de Dieu s'est répandue, du siècle dernier plutôt, les gens couraient à la réunion de prière. Les endroits étaient trop petits. Et aujourd'hui, il faut presque supplier de venir à la réunion de prière. Je crois qu'il y a une bonne remise en question. Des fois, il faut pouvoir dire les choses pour que ça fasse un électrochoc et que on se reprenne. Le Seigneur va utiliser plusieurs moyens pour se reprendre là, ici, et peut-être ce matin, c'est au travers de la prédication. Je vous ai dit également, mardi, peut-être j'informe tous ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai donc un autre oncle qui avait une tumeur dans le rein, à l'intérieur, donc il y a eu l'ablation du rein, et hier, je suis allé le visiter hier matin, on a passé un temps, et il m'a dit ça, il m'a dit, Alex, au travers de ce que j'ai vécu, cette opération, hein, c'était pas une petite opération, je me suis aperçu que j'étais en train de m'endormir. J'étais en train de vivre ma vie, ça n'avait rien à voir avec le salut, hein, toujours sauvé, hein, voilà, dans son cœur, il y avait cette espérance. Mais, voilà, un endormissement que le Seigneur nous donne de pouvoir nous ressaisir et de mettre les vraies priorités et de remettre peut-être, quand c'est le temps de la prière, à plus tard, certaines choses qu'on pourrait remettre. Alors évidemment, hein, je le répète, pour que personne ne soit confus. Des fois, on ne peut pas, il y a une urgence, il y a le travail, une situation particulière à un moment donné, il n'y a aucun souci. Hein. Mais soyons à la réunion de prière. Alléluia. Je suis sûr, si je venais vous voir individuellement, est-ce que vous voulez voir des grandes choses? Est-ce que vous voulez voir des miracles, des prodiges? Est-ce que vous voulez voir les membres de vos familles se tourner vers le Seigneur? Tous, bien sûr. Mais c'est là où il faut se tenir. C'est à la réunion de prière, alléluia, que le Seigneur nous aide à nous trouver fidèles. Et comme Jésus lui-même, dans ces temps qu'il vivait dans ce jardin de Gethsémané, vit des temps, donc quand même qui sont terribles, il a besoin de pouvoir s'adresser à son Père. Il parle à son Père et il donne quelques recommandations aux disciples. Il leur dit, veillez et priez avec moi. Combien ils nous ressemblent, hein, ces disciples. Le Seigneur, quand il va revenir, il va leur faire ce reproche, il va dire, mais vous n'avez pas pu prier simplement une heure. Il leur avait demandé que ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait un combat à mener. Pour ceux et celles qui ont déjà participé, voilà, à des réunions de prière, on s'aperçoit que on vit des situations particulières où un frère, voilà, il y a un sujet de prière qui vient là, qui est grave. Quand le peuple s'unit, se lève en disant « Seigneur, viens à notre secours !» Alors oui, il y a une puissance. Je voudrais vous donner un exemple. Un jour, dans l'église où j'étais, le pasteur m'appelle et me dit « Alex, voilà, je viens de recevoir donc, un appel. » Donc il avait une de ses filles, alors, je ne sais plus, 7-8 ans. Mais voilà, elle ne se sentait pas bien. Donc résultat des courses. Pareil, grosse tumeur dans le rein. Pour vous dire, hein, une petite de 7, 8 ans, 6 ans, hein, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Dans le rein, une tumeur de la grandeur d'une bouteille. Rendez-vous compte. Hein. Alors, il m'appelle, il me dit, je pars en urgence. À ce moment-là, c'était sur Montpellier. Je pars en urgence sur Montpellier. Voilà, c'était juste pour t'avertir. Et là, ça nous a donné, donc, comme il m'a informé, de suite, téléphone, on envoie des messages, on appelle, est-ce qu'on peut se retrouver dans 30 minutes à l'église? Je vous promets, hein, on s'est retrouvé là, peut-être, je ne sais pas, 30, 35, 40, je ne sais plus. Puis à un moment donné, on a commencé à prier. Et il y avait cette puissance qui se dégageait. Dans le moment de prière, je ne sais pas, peut-être 30 minutes, 45 minutes, je ne sais plus. On a senti dans nos cœurs que le Seigneur avait agi. Comment l'expliquer? On ne sait pas. Si ce n'est que par l'Esprit. C'est comme si le Seigneur nous disait, maintenant, c'est bon, j'ai la situation en main. Alors, la réunion de prière, sans qu'on donne une directive de quoi que ce soit, elle s'est transformée en réunion de louange. On a remercié le Seigneur. Il y avait de la joie. Alléluia. Et donc, tout ça pour vous dire que, oui, c'est réel. Ce que le Seigneur faisait, voilà, il y a quelque temps, il est capable encore de le faire aujourd'hui. Alors, mobilisons-nous, frères et sœurs, comme Jésus l'a fait. Il s'est éloigné pour prier. Et là, pendant ce temps de prière, il va commencer à éprouver donc, de la tristesse et des angoisses. La tristesse signifie qu'il avait un abattement extrême. Pas pour lui-même, mais c'est parce qu'il portait les péchés de l'humanité, il faut les porter. Hein. Alors bien sûr qu'il n'est pas concevable que Jésus ait eu peur de mourir. Hein. Il savait très bien, puisqu'il l'avait annoncé, on l'a lu tout à l'heure. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Alléluia. Jésus savait ce que signifiait être crucifié. Parce que toute la vie de Jésus était orientée vers ce moment. Si vous lisez la suite, quelque temps après, Judas arrive parce que, voilà, ils viennent de le trahir. Et ça, c'est terrible parce que Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. Il était évidemment animé de l'amour de Dieu. Et remarquez avec moi de quelle manière il va se présenter à Jésus. Par un baiser. Il n'y a rien de plus terrible, hein, si on imaginait. Quelqu'un vient nous embrasser et puis il vient de nous trahir. Mais Jésus va passer au-delà de tout ça. Hein, puis va s'en suivre une fois qu'il va être crucifié, les sept paroles de la croix. Et notamment, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est vrai, hein, de la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Quand Jésus donc va être crucifié, regardez hein, la puissance qui va être libérée à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes surnaturels de la croix. Jésus expira, nous dit le texte. Et à partir de ce moment-là, les ténèbres sont apparues sur la terre. C'est pas une éclipse, c'était pas une éclipse. C'est quelque chose quand même où un jugement de Dieu. Le voile s'est déchiré. Vous en connaissez la signification. Personne, à part le souverain sacrificateur, mais personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Le voile déchiré, ce qui sous-entend depuis le haut jusqu'en bas, précision importante encore une fois, afin que maintenant le peuple de racheté puisse venir dans sa présence et adorer notre Seigneur. Alléluia, quel privilège extraordinaire nous avons. Le voile déchiré. La terre a tremblé. Maintenant, on a des images, vous avez vu, un peu partout, dès qu'il y a un tremblement de terre, il y a des images, c'est impressionnant. Hein. Quand vous vous trouvez à l'intérieur et que la terre secoue, ça va être une sensation terrible. Donc, la terre a tremblé. Regardez encore des phénomènes. Des corps de personnes qui étaient mortes sont ressuscités. On imagine ce matin? Ceux qui avaient perdu ces bien-aimés-là, quand ils les ont vus. Et puis, il y a encore un phénomène. Par sa manière de mourir à la croix du calvaire, le centenier, cet homme, le responsable du custodias, il va être sauvé. Parce qu'il va... Il va faire cette déclaration. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Quand il dit ça, il dit, tout ce qu'il nous a dit, c'était réellement vrai. Il le constatait même en voyant Jésus en train de mourir. Même dans sa façon de mourir, Jésus a sauvé encore une personne. Alors oui, le centenier a été sauvé. La puissance coule de la croix, on l'a vu. Il y a eu la conversion de plusieurs. La croix, c'est une victoire. Alléluia. Et non pas une défaite. La puissance de la résurrection. Jésus-Christ est vivant. Et tous ceux qui sont sauvés le sont grâce à la mort de Christ sur la croix. Un seul moyen pour être sauvé. Vous rappelez deux fois dans la Bible, deux hommes sont venus voir les personnes qui étaient là. Une personne est venue voir Jésus, le jeune homme riche, puis le centenier, Paul et Silas. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous savez que ça, c'est la meilleure des questions qu'un homme et une femme puissent se poser. Que faut-il faire? Alors là où ils se trompaient, c'était dans le fait de faire. On ne peut rien faire. C'est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On a été graciés. Alléluia. C'est pour ça que, prioritairement, dans les cultes, à chaque fois qu'on se réunit, il ne faut pas qu'il y ait de la tristesse. Le peuple de Dieu est heureux. Tout à l'heure, je faisais la blague. Hein. Vous savez comment... quelqu'un qui est heureux, comment ça se voit? À la blancheur des dents qui sont là, on les voit de loin, on est heureux. Je vous promets que avant de connaître le Seigneur, j'ai assez pleuré, j'ai assez été triste dans ma vie. Et quand j'ai découvert que je devenais enfant de Dieu, que j'héritais de la vie éternelle, je me suis dit, Seigneur, garde ma joie intacte. Frères et sœurs, nous avons également une grande responsabilité. Hein. Parce que là où le Seigneur nous place, bon, excusez-moi, je vais être un peu direct, si on me fait la tronche, quel est le témoignage? Ça ne veut pas dire que on ne traverse pas des moments difficiles hein, et qu'il faille faire semblant d'aller bien. On le voit partout dans la Bible. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand ces choses perdurent, je vous promets, je vous l'ai dit ici, hein, dans d'autres églises, il y a des personnes, je ne leur demandais pas comment ça allait. Déjà, rien qu'à leur tête, je savais. Ils disaient, oh là là. Et là, on m'expliquait. Hein, on me montrait le bilan. La tête, les articulations, il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci. Et alors, une fois que la liste était faite, plus rien à dire. Et moi, je disais, mais tout ça, vous l'avez apporté au Seigneur? Des fois, on oublie. Hein. Alors, la joie doit être dans nos cœurs. Tous ceux et celles qui sont sauvés par grâce. C'est un privilège tellement énorme. On a parlé du symbole de cette croix, finalement comme instrument de torture. On a parlé de pourquoi la croix de Jésus, puis ça ne s'arrête pas là. Troisième point, rapidement, où il y a également la responsabilité qui nous incombe de prendre notre croix. Prendre sa croix, c'est quoi? Prendre sa croix, c'est vouloir devenir disciple de Christ. Est-ce que c'est votre objectif? Est-ce que vous poursuivez ça? Ou alors, d'autres choses. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous vous dites, Seigneur, rends-moi semblable à toi. Alors après, là, ce qui doit venir juste derrière, et je sais, Seigneur, qu'il y a du travail. Mais c'est une ambition. Aujourd'hui, des fois, dans les discussions comme ça, on voit certaines personnes, hein, certains chrétiens, qui ont de l'ambition pour les choses de la vie. Et il y a aucun souci. Mais ils ont de l'ambition que pour ça. Et pour les choses de Dieu, même s'ils ont une vie un peu chrétienne, un peu comme ça, un coup en haut, un coup en bas, c'est pas grave. Que Dieu fasse, qu'il nous donne cet état d'esprit de vainqueur. De dire, mais non, ces choses que je dis dans la Bible, elles sont également pour moi. Et Seigneur, je veux les vivre. Et on va le voir, hein, qu'il y a un prix à payer. C'est ça la mort. Il y a un prix à payer. Oh, bien sûr, on aurait bien aimé, hein, que tout tombe tout cuit du ciel. On se lève un matin, on est devenu un disciple de Christ. Waouh. Ce serait extraordinaire, hein. Vous savez, quand on met la veste le matin. Mais c'est pas comme ça. Le Seigneur veut travailler nos cœurs. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui ne lui plaisent pas et qui doivent disparaître absolument. Oui, prendre sa croix, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 10, versets 37 et 39, à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Waouh. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Alors il ne faut pas qu'on comprenne mal ce que Jésus est en train de dire. Hein. Est-ce que Jésus est contre la famille? Jamais. Est-ce que Jésus veut qu'on abandonne les membres de nos familles ou les enfants? Jamais. En fait, ici, ce verset, c'est une question de priorité. Si Jésus est au centre de nos vies, alors nous aurons une vie solide, une vie de famille solide, alléluia, parce que il est dit dans la parole que quand on bâtit sur le roc, quand la tempête vient, et forcément tôt ou tard elle viendra, la maison qui tiendra debout, c'est celle qui a des solides fondations. Bâtit sa maison sur le roc, ne soyons pas insensés, hein, comme ce fou qui bâtit une maison sur le sable. Mais quel être humain sensé sur cette terre serait capable de faire ça? Alors ici, Jésus prend cette parabole pour montrer les deux extrêmes, en fait. être disciple de Christ nécessite une passion sans réserve. Dans ces moments-là, comme ça, hein, quand on se retrouve là en famille, où il y avait certains amis avec qui je traînais à l'époque avant de me convertir, hein, et puis on se rappelait, on se disait, vous vous rappelez, quand on était ensemble et quand on travaillait, on travaillait dehors, donc soumis aux intempéries, dès qu'il pleuvait un peu, ah ben il nous faut partir, hein. Il y a la pluie, il faut qu'on se mette en intempéries, voilà, et puis bon, c'est comme ça. Puis on se disait, vous vous souvenez quand on jouait, quand on était sur les terrains, vous savez, je vous le dis, hein, bon, je jouais au rugby, et quand je jouais au rugby et qu'il pleuvait, j'étais content. Mais qu'est-ce qui faisait que j'étais content? Alors, évidemment, il y avait la part de se jeter dans la boue. Hein. Bon, ça, c'est... Mais j'étais animé de cette passion. Que le Seigneur nous aide à être passionnés de lui, de son œuvre, de son Église. Alléluia! Aujourd'hui, hein, on est un peu... certains sont devenus un peu comme... Vous savez, maintenant, dans certaines émissions, pour aller à tel endroit, choisissez, tapez un... taper 2, taper 3, et aujourd'hui, on le voit. Vous me posez la question encore ces jours-ci, me disiez, mais dans quelle église il faut aller? Il disait, mais c'est simple, en fait. Dans une église où on prêche la parole de Dieu. On ne prêche pas la parole des hommes. On prêche la parole qui vient de Dieu, où les choses sont droites. Et me disait, ah d'accord, bon, dans cette discussion, il semblait pas convaincu, mais après le Seigneur, il fait son œuvre dans les cœurs. Oui, être disciple de Christ nécessite une passion sans réserve. Être disciple de Christ, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, comment? C'est vouloir qu'il occupe la place la plus élevée dans nos cœurs. Et c'est également, c'est détester ceux qui s'opposent à cela. Il faut haïr certaines choses. C'est le sens de ce verset. Si on s'accommode de certaines choses que nous propose ce monde, on appelle ça un compromis. Prendre sa croix, c'est choisir de se comporter selon la volonté de Dieu. Pour Jésus, la volonté de Dieu, c'était Gethsémané et Golgotha. Pour nous, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Beaucoup de personnes interprètent le fait de prendre sa croix, l'interprètent très mal. Souvent, dans les discussions, quand on porte un fardeau dans notre vie, on dit « je porte ma croix ». Quand il y a une relation tendue, « je porte ma croix », c'est la pénitence. Quand je suis dans un travail ingrat, « je porte ma croix ». Une maladie physique, je porte ma croix. C'est pas ce que Jésus a voulu dire ici. On ne doit pas l'interpréter comme ça. Les rachetés, ceux qui se chargent de la croix, ont compris que se charger de sa croix va découler une bénédiction sur nos vies. Va découler le pardon des péchés. Va découler de la grâce et de l'amour en abondance. Parce que Dieu ne donne pas au compte-gouttes, il donne en abondance. Porter sa croix et suivre Jésus implique d'être prêt. Alors je fais une temps de pause pour que tout le monde soit attentif. À mourir pour lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des temps de persécution qui arrivent? C'est dans la parole de Dieu. Et ceux et celles qui vont résister, ce sont ceux et celles qui ont des fondations solides et qui ont décidé de mourir à eux-mêmes, à cet ego qui veut gouverner notre vie. Vouloir conserver sa vie, hein, ce verset qu'on a lu, signifie, c'est une illusion en fait. Cette sensation de vivre ce sentiment de liberté. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de liberté. Puis on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus liés. Et esclave. La question qui est posée par la parole. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La question, elle est posée. Alors certes, et je termine, la parole, l'appel est difficile, mais la récompense incomparable. La vie de disciple ne va jamais sans sacrifice. Le Seigneur nous demandera toujours de sacrifier quelque chose. Toujours. Un emploi du temps, un planning, un calendrier, une situation. Le Seigneur nous demandera toujours de sacrifier. Pas pour nous enlever quelque chose, pour nous bénir. Pour qu'il ait la priorité dans nos vies. Et ça nous parle de consécration. La consécration à Christ commence en apprenant à porter sa croix, pas une fois. Le même verset de porter sa croix dans l'épître de Luc nous dit, petit détail, chaque jour. Chaque jour, mon frère et ma sœur, tu dois porter ta croix. Vouloir être semblable à Christ. Alors j'aimerais vous dire que le jeu en vaut la chandelle. Dernier verset, Matthieu 16, 25. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia, une promesse du Seigneur. On a lu ensemble tout à l'heure en titre, je vous ai donné ce titre, la puissance de la croix. J'aurais pu également l'intituler la croix, sa croix et ma croix. Que Dieu nous aide à vivre cette puissance de la croix tous ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour déversé, Seigneur. Quand je considère la croix, Seigneur, c'est bien plus, évidemment, qu'un symbole quelconque terrestre. C'est la puissance, Seigneur. Seigneur, au travers de cette croix, tu es venu me sauver, Seigneur. Tu es venu me libérer du péché. Ah, je peux le déclarer haut et fort ce matin, que je suis libre en Jésus-Christ. Alléluia. Et avec cela, Seigneur mon Dieu, tu m'as donné une espérance extraordinaire. Je sais que mes yeux te verront. Je le sais, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler de plus en plus. À prendre chaque jour cette croix. Seigneur, quand je prends cette croix, c'est un fardeau qui est léger, parce que ta parole nous le dit, que ton fardeau, il est léger. C'est pas un accablement. On ne va pas crouler sous le poids de cette croix. Mais c'est un acte que tu nous demandes, afin que tu aies la priorité dans nos vies. Seigneur, je veux te prier pour celui et celle ce matin, qui à un moment donné de ce message a été interpellé. Seigneur, je te remercie parce que quand tu interpelles, c'est pour nous reprendre. C'est pour rectifier une situation. Seigneur, continue ton œuvre dans nos cœurs, afin que nous allions de l'avant, que nous soyons cette église triomphante, cette église qui est en marche, cette église qui compte sur son Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, à ce prix-là, nous verrons de grandes choses, parce que tu es grand, toi, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur. Seigneur, bénis cette semaine qui s'ouvre à nous, que nous puissions pas perdre de vue, Seigneur, que nous sommes tes disciples et que nous voulons témoigner de toi. Seigneur, conduis-nous vers les malheureux, vers les nécessiteux, vers tous ceux et celles qui ont besoin de toi. Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Donne-nous du courage afin d'être comme toi, de la compassion également pour ce monde qui se meurt, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, bonne semaine.